Guy Carbamet, télécommunications, quelques généralités. Si vous le permettez, j'aimerais commencer cet exposé de façon un peu inhabituelle en posant tout d'abord quelques questions à notre auditoire. Alors, ça va ressembler un petit peu à un sondage, n'en soyez pas effrayés. J'aimerais que vous me disiez, en levant la main tout simplement, qui parmi vous a un répondeur téléphonique. Je vois 3 personnes, ça n'est pas la moitié de l'assistance. Qui dispose chez lui d'un fax? 2 personnes. Bien que ce soit des appareils de télécommunication qui sont de plus en plus connus, ils se répandent, mais ils n'équipent pas encore la totalité des foyers. Toutefois, si la même question avait été posée il y a 20 ou 30 ans, je pense que vous-même et l'auditoire m'auriez regardé en écarquillant les yeux et en vous demandant de quoi je parlais. En ce qui concerne le téléphone, il est évident que je ne peux pas poser la même question. Il serait absurde de demander aujourd'hui qui a le téléphone, puisque tout le monde l'a. Par contre, je pourrais poser la question de savoir combien de combinés téléphoniques vous avez chez vous. De toute évidence, on le voit tous les jours, les télécommunications font partie de notre paysage quotidien et les télécommunications offrent de grandes possibilités. D'ailleurs, ce sont des moyens qui se banalisent, on devient de plus en plus blasé parce que maintenant, lorsque l'on voit des gens téléphoner dans la rue sans même avoir besoin d'entrer dans une cabine téléphonique, eh bien, nous ne nous surprenons pas outre mesure. Même chose lorsque nous voyons quelqu'un téléphoner depuis sa voiture. Et depuis quelques années, les possibilités existent de téléphoner depuis un train en marche ou même depuis un avion. Je vous disais que les télécommunications offrent des possibilités de plus en plus grandes et de plus en plus intéressantes. Et je me souviens d'un ouvrage qui a été publié il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, et qui avait pour titre en anglais « The Electronic Cottage » et qui nous présentait les possibilités du télétravail, c'est-à-dire comment continuer à exercer sa profession tout en restant chez soi, en d'autres termes. Et il faut dire que cet ouvrage avait été écrit dans le sillage des grandes crises pétrolières de la fin des années 70, et il était évident que l'on cherchait à ce moment-là à éviter au maximum les déplacements, et c'est pourquoi on avait prédit à la téléconférence un grand avenir. Alors, en tant qu'interprète, il est évident que ces possibilités nous interpellaient, nous intéressaient, nous nous sentions concernés. Bon, il se trouve que dans les grandes conférences, la téléconférence est quelque chose qui ne s'est pas imposé. Par contre, dans les relations inter-entreprises, la téléconférence est quelque chose qui se pratique maintenant tous les jours. Les possibilités de télétravail intéressent une profession qui est très proche de la nôtre et sous de nombreuses facettes complémentaires, celle de traducteur. En effet, il est tout à fait possible de travailler en tant que traducteur en ne bougeant pas de chez soi. Il suffit pour cela d'avoir une ligne téléphonique au moins, d'avoir un ordinateur et d'avoir une imprimante. Et du début jusqu'à la fin, vous pouvez mener à bien votre activité professionnelle. Vous pouvez, grâce aux télécommunications, négocier votre contrat par téléphone avec votre client, lequel vous enverra le texte à traduire soit directement par le réseau auquel votre ordinateur est rattaché, ou bien par un fax. Lorsque vous effectuerez votre traduction, vous la ferez à l'aide du programme de traitement de texte installé sur votre ordinateur. Pour vous aider dans votre traduction, vous pourrez consulter une banque de données terminologiques ou bien thématiques auxquelles votre ordinateur sera connecté. Vous enverrez votre traduction, une fois votre travail terminé, à votre client par les mêmes moyens qu'au départ. Avec un peu de chance, votre client vous paiera en effectuant un virement bancaire électronique. Et puis, si par exemple vous habitez la France, mais des moyens similaires existent dans d'autres pays, eh bien vous pourrez consulter votre compte bancaire pour voir si vous avez été crédité du montant par le Minitel, par exemple. C'est, vous le voyez, le triomphe de la télématique qui, comme vous le savez, est l'alliance entre le téléphone et l'informatique. De toute évidence, il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, je ne me propose pas de vous refaire toute l'histoire des télécommunications depuis l'Antiquité, ce serait beaucoup trop fastidieux, mais on peut dire que jusqu'à l'ère pré-industrielle, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans les télécommunications. Ces communications, c'est-à-dire ces transmissions de messages, étant obligatoirement limitées par la vitesse du transport, je veux dire par là du transport du message. Autrement dit, la vitesse maximum était celle du meilleur coursier, du meilleur athlète, du meilleur cheval ou du meilleur cavalier. Et sur de courtes distances, on arrivait parfois à des résultats surprenants. Et bien sûr, dès que les distances s'agrandissaient, au mieux, on stabilisait le transport du message à une vitesse autour de 15 km à l'heure. Alors, comme très souvent dans l'histoire des sciences et des techniques, c'est une situation de conflit, une situation de guerre qui a amené les progrès dans ce domaine. Et la première percée intervient dans la France révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. La France menacée par plusieurs armées étrangères a dû trouver un système pour se donner un avantage comparatif, dirait-on aujourd'hui, et un ingénieur français du nom de Claude Chappe a décidé qu'il fallait que les armées françaises puissent être dotées d'un système de liaison rapide, un système de communication rapide, si vous voulez, et c'est la raison pour laquelle il a inventé le télégraphe. Alors, le télégraphe, à l'époque, n'était qu'un télégraphe aérien, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un système avec un mât placé sur une hauteur, une colline, un promontoire. Le mât était équipé de bras articulés, c'est-à-dire que l'on pouvait donner au bras la configuration d'une lettre de l'alphabet. Et on envoyait ainsi des messages, lettre après lettre. Le message en question était lu depuis une autre colline, une autre station, grâce à des lunettes d'approche, et ainsi de suite, il était possible de propager le message. Et c'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, sur une distance comme Paris-Toulon, qui n'est pas négligeable, on arrivait à transmettre un signal grâce à un réseau composé de 116 relais en 20 minutes. Le système, bien sûr, avait ses limites, puisque pour qu'il fonctionne, il fallait que le temps soit clair sur tout le parcours, ce qui n'était pas toujours le cas. Et puis, bien sûr, dès la tombée de la nuit, le système ne pouvait plus fonctionner. L'autre évolution qui interviendra chronologiquement sera en parallèle avec le développement à la fois de l'électricité et des chemins de fer, et ce sera la mise au point du télégraphe électrique, lequel se développera très rapidement, et dès la deuxième moitié du XIXe siècle, le paysage de tous les pays industrialisés de l'époque se verra doté de poteaux télégraphiques et de lignes de chemin de fer. Toute cette infrastructure, bien sûr, aura une limite physique, géographique, qui sera celle du littoral. Autrement dit, lorsqu'il s'agira de traverser les mers, en un premier temps, eh bien, il faudra employer les moyens traditionnels. Une dépêche télégraphique arrivera jusqu'à une ville au bord de la mer. Lorsqu'il faudra l'envoyer dans un autre pays, eh bien, elle ira par bateau, traditionnellement. Mais très rapidement, des progrès interviendront, et ils interviendront principalement lorsque l'on aura inventé le câble sous-marin et lorsqu'on saura le poser au fond de la mer ou au fond des océans. Et cela interviendra assez rapidement puisque sous la Manche, le premier câble sous-marin sera posé en 1850. Alors, bien sûr, c'était une autre histoire lorsqu'il s'agissait de le poser à travers des océans beaucoup plus vastes, comme l'océan Atlantique pour relier l'Europe et l'Amérique du Nord. Toutefois, dès 1858, ce sera une réalité. Au départ, bien sûr, les choses ne fonctionneront pas très bien, il y aura énormément de péripéties, mais malgré tout, en quelques décennies, les continents et les îles principales de ce globe auront pu être reliés entre eux. La transmission du signal électrique se fait rapidement. Malgré tout, lorsque l'on veut établir un dialogue, eh bien, il y a des tas de contraintes, et particulièrement celle de devoir envoyer d'abord l'ensemble du message et devoir attendre la réponse, ce qui prend énormément de temps et qui ne se prête pas bien au dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'en 1876, les Américains Bell et Gray, deux ingénieurs, inventeront le téléphone, et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont déposé leur demande de brevet dans deux villes différentes à 2 heures d'intervalle, comme c'est Bell qui l'a déposé le premier chronologiquement, c'est lui qui est gratifié de l'invention du téléphone. Alors, lorsque le téléphone sera inventé, il connaîtra tout de suite un succès foudroyant à cause des nouvelles possibilités qu'il offre. Il se développera très rapidement et c'est en fait un incident assez amusant qui est à l'origine d'un développement encore plus rapide qu'il n'aurait été autrement. Un industriel de Chicago s'est rendu compte un jour que ses affaires périclitaient et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Puis il a mené son enquête et il a pu s'apercevoir que tous les appels téléphoniques qui lui étaient destinés étaient commutés par la standardiste ou les standardistes, les demoiselles du téléphone, comme on les appelait en France encore au XXe siècle, sur les lignes de son concurrent principal. D'un point de vue juridique, il n'a pas pu faire grand-chose, mais la nécessité étant mère d'industrie, pour se sortir de la mauvaise situation dans laquelle il était, il s'est mis à étudier lui aussi l'électricité, les télécommunications de l'époque, et il a mis au point un système permettant de se passer de la standardiste. Autrement dit, c'est là qu'est né le central téléphonique, le central automatique. Les commutations se faisaient directement, automatiquement, type de centrale qui a fonctionné très bien pendant très longtemps, presque un siècle, puisque c'est seulement dans les années 1960 qu'il a été remplacé par les centraux électroniques. Je vous disais que le téléphone s'est développé rapidement et il a envahi pratiquement tous les domaines des télécommunications. Alors tout sauf cependant celui des câbles sous-marins. Car si rapidement on a su transmettre des conversations téléphoniques par les câbles, ce n'était possible que sur de courtes distances. Et par exemple, les premières conversations téléphoniques par câble sous-marin entre l'Europe et l'Amérique du Nord n'ont pu avoir lieu qu'en 1956. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conversations téléphoniques entre les deux continents auparavant. Ces conversations existaient, étaient possibles dès 1927, mais par le système radio, par la télégraphie sans fil. Ce n'est donc qu'en 1956 que ces conversations téléphoniques par câble ont pu avoir lieu. Et c'est d'ailleurs plus ou moins à cette époque qu'un autre grand moyen de télécommunication a été inventé et qui s'est développé, comme on le sait, à savoir les satellites de télécommunication.